Les séminaires du Collège de France.
Merci d'être resté pour ceux qui sont restés, d'être venus pour ceux qui viennent pour écouter Joël Proust. Je suis très ravi de l'accueillir ici. C'est une philosophe qui a eu une carrière très riche en philosophie, aussi en sciences cognitives. Elle travaille actuellement depuis un certain nombre d'années sur la métacognition. Elle a plusieurs ouvrages sur cette question et elle dirige au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale un groupe de travail là-dessus. Je crois aussi que c'est là-dessus que ton dernier livre porte. Pensez vite ou pensez bien,
pensez
ça porte sur
bien.
Des questions à l'application aussi.
Entre autres, oui.
À l'éducation, entre autres. Mais parmi les travaux qu'elle a fait, elle a beaucoup travaillé sur une question dont j'ai parlé la dernière fois, c'est les sentiments, le type de représentation que sont les sentiments. Elle a étudié la cognition animale, enfin énormément de choses. En fait, elle a beaucoup de livres, dont une demi-douzaine d'ouvrages en nom propre. Donc, je ne vais pas tous les énumérer. Je me contente de lui donner la parole et de lui dire mon plaisir de l'accueillir.
Merci François. Moi aussi, je suis très heureuse d'être ici et très honorée d'être invitée par quelqu'un que j'admire infiniment. Alors, la première question, c'est pourquoi s'intéresser à la sémantique du placement de traits de Strawson quand on n'est pas spécialiste de philosophie du langage ? Eh bien, la réponse, c'est que la sémantique du placement de traits, feature placing, dans les termes de Strawson, pourrait constituer une étape pré-langagière de la structuration de l'information, aussi bien chez les non-humains que chez les jeunes enfants. Je ne sais pas si notre psychologue du développement ici présent va être intéressé par cette hypothèse, mais en tout cas, je voudrais la défendre. Voici le plan d'exposé. Je vais commencer par présenter le placement de traits sous l'angle interdisciplinaire qui est le mien. Donc ça peut vous étonner parce que ce n'est pas un point de vue qui est habituellement familier aux linguistes. Ensuite, je passerai à l'actualisation du concept central de la notion d'affordance chez Gibson. Les ressentis d'affordance cognitive seront ensuite étudiés parce qu'ils me permettent de vraiment caractériser de manière concrète ce que sont les placements de traits dans le domaine de la métacognition. J'évoquerai brièvement les objections classiques qui sont apportées depuis une vingtaine d'années à cette notion de métacognition très procédurale, très, comme je le disais tout à l'heure, pré-langagière, et conclurai en attendant d'avoir vos questions qui m'intéressent beaucoup aussi. Alors voici mon introduction, le placement de traits comme thème de recherche. Alors, je n'ai pas les très belles photos de François. Vraiment, j'admire toujours tes choix de photos qui sont extraordinaires. Là, vous avez simplement le portrait de Strawson et la présentation de la couverture de Individuals, du moins dans sa dernière livraison. Alors, quand Strawson a écrit ce texte, ce qu'il appelle de métaphysique descriptive, hein, Individuals, c'est un texte de métaphysique descriptive sur la structure effective de notre pensée au sujet du monde. Il ne s'attendait sans doute pas à ce que la thématique du placement de traits devienne une hypothèse théorique sérieuse sur l'évolution de la cognition. Et pourtant, c'est une hypothèse, comme vous allez le voir, qui me semble tout à fait compatible avec des travaux interdisciplinaires d'origine multiple, en particulier la théorie de l'évolution du contrôle de Paul Chyssek, qui a vraiment écrit une série d'articles extraordinaires sur l'évolution de la cognition depuis les premiers représentants de notre espèce dans la phylogénèse. Donc c'est très impressionnant, des chordées jusqu'aux primates. Donc la thèse défendue, pour revenir à Strawson, c'est que s'il y a des faits qui méritent d'être appelés des faits ultimes ou atomiques, Ce sont les faits énoncés par ces propositions qui indiquent de manière démonstrative l'incidence d'un trait général. Donc, grâce à l'exposé de ce matin de François Recanati, vous voyez déjà bien ce dont il est question par ces faits atomiques, ces faits qui sont énoncés par des propositions. Simplement, François n'a pas développé aujourd'hui l'aspect démonstratif de ces faits, et c'est une chose qui va tenir un grand rôle dans la présentation que je vais vous faire. Alors, dans l'approche de Strawson, la sémantique du placement de traits ne fait pas référence à un ou plusieurs objets. Il ne fait pas non plus appel à des propriétés par un universel caractérisant ou typant pour ces objets. Alors, la manière dont il définit le trait, c'est une « kind of stuff » qui est placé, qui est situé dans l'espace et dans le temps. Ici, maintenant, il y a de l'eau, il y a de la neige, hein, les énoncés météorologiques jouent une grande place, mais on va voir qu'il y a d'autres exemples aussi qui ne sont pas météorologiques. Donc, les instruments du placement, ce sont des déictiques. Hein, le placement, ça veut dire le fait de caractériser de façon non conceptuelle des éléments de l'environnement, qui est l'environnement externe ou l'environnement intérieur. Ça, du moins, c'est l'adjonction que je me permettrai de faire à la caractérisation du placement de traits. Bon, ça peut être par exemple, tiens, il y a du jaune là, mais pas forcément avec un vocabulaire adapté, ça pourrait être aussi des indicateurs mentaux ou cognitifs de propriété au sens dont il parle. Plutôt que propriété, je préfère dire trait, hein, pour rester dans la claire opposition à la sémantique où les propriétés sont attribuées à des objets. Alors là, vous avez le contraste entre le placement de trait, où il n'y a pas de particulier, c'est-à-dire il n'y a pas d'objet. Dans la colonne de droite, vous avez le même énoncé retraduit et enrichi dans une sémantique qui dispose de particuliers à caractériser. Donc dans la colonne de gauche, vous reconnaissez les énoncés « maintenant il pleut »,« la neige tombe »,« il y a de l'eau ici » et de façon plus amusante, « il y a de la souris ici ». Cet exemple chez Strawson, c'est « il y a du chat ». Mais je trouve qu'il y a du chat parle moins qu'il y a de la souris ou il y a du lièvre. Hein. Un chasseur va dire « il y a du lièvre ». Il ne veut pas dire qu'il y a un lièvre qu'il a vu. Il veut caractériser plutôt cette affordance, hein, on va utiliser le mot tout de suite, qu'il compte exploiter. Il y a du lièvre. Donc déjà, on voit dans ces exemples, comme d'ailleurs le reconnaît tout à fait Strawson, c'est que ce feature placing, il n'est pas absent de la sémantique contemporaine. Même si enfin, la sémantique qui a évolué à partir de cet état antérieur, même si, évidemment, il y a un passage extrêmement facile entre la caractérisation par des traits, plutôt un placement de traits, pour être clair, vers une caractérisation de particulier. Hein, il est facile de retraduire ça dans une sémantique, disons habituelle, en particulier dans le langage. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que dans ces deux colonnes, il y a vraiment le passage possible d'un mode de représentation pré-langagier et voire pré-humain, et qui remonte sans doute à très loin dans l'évolution, alors qu'à droite, vous avez les caractérisations de particuliers, évidemment, courante, pour laquelle nous pouvons cette fois déterminer de quels objets il s'agissait. Lorsque je disais « il y a de la souris », eh bien je peux maintenant montrer peut-être une souris ou montrer des traces de cette souris. Alors ce qui est intéressant, c'est que Strawson considérait que même dans ce placement de traits, on peut dire « il y a de la souris ici » et « il y a de nouveau de la souris ici ». Donc l'idée même qu'il y a une épaisseur temporelle peut se représenter à l'intérieur du placement de trait. Alors, maintenant, je voudrais faire une proposition qui est que cette notion de placement de trait est très pertinente pour pour les sciences cognitives. En particulier depuis que, avec Gibson et Levin, on a commencé à réaliser l'importance de ce que c'est qu'une affordance. Expérimenter une affordance, ou comme dit Levin, enfin c'est un Allemand, donc je dis Levin, une Aufforderung, c'est quelque chose qui va organiser la cognition, voire chez Gibson, qui était anti-représentationnaliste, va remplacer la cognition. Alors, cette approche a également intéressé des phénoménologues comme Dreyfus et Kelly, qui ont eux-mêmes inventé cette notion de affordance sensing. Pezzullo et Čižek, dont je parlais tout à l'heure, également sont centrés sur le concept d'affordance parce qu'ils comprennent l'importance essentielle dans l'évolution de la cognition, catégorisation, si j'ose dire, sans particulier, hein, qui est présente bien avant l'humain. Et maintenant, ce que je propose, c'est qu'on peut également utiliser cela pour l'expérience subjective de sa propre activité mentale, lors même qu'on ne dispose pas encore des concepts mentaux pertinents. Alors, donc, je vais essayer de démontrer que le placement d'affordance, le placement de trait, pardon, est étroitement lié aux affordances. Alors, déjà, il faut se souvenir que les affordances perceptives sont théorisées comme des ressources, soit positives, hein, soit comme des risques, comme des choses négatives qui sont à détecter dans le flux perceptif occurrent. Donc c'est important, c'est du maintenant, les affordances, c'est ce que je vois maintenant. Après, ça peut être mémorisé, mais l'essentiel de l'affordance est capté dans le moment de l'action et dans les interactions avec l'environnement ou avec sa propre pensée. Et selon la théorie dite écologique de la perception, les animaux aussi, hein, Gibson défend également cette idée, les animaux perçoivent leur environnement directement sous forme d'affordance. Alors, il y a un point de discussion entre scientifiques, c'est que la détection d'une affordance implique une potentialisation d'action dans un contexte donné. C'est-à-dire, je vois un risque, hein, je suis un animal, je vois mon prédateur, je fuis. Et l'affordance, c'est indissociablement la vision, hein, la détection. Ça peut être une détection qui peut être aussi auditive ou dans toute autre modalité selon l'animal concerné. Mais le fait de détecter un risque directement potentialise une réponse à ce risque. De même, pour une opportunité de se nourrir, par exemple, ça potentialise directement une approche vers la nourriture. Alors que la notion de placement de trait telle qu'elle est définie à l'origine, chez Strawson du moins, ne comporte pas cette notion de potentialisation. Mais évidemment, nous avons à résoudre cette question. Est-ce que, oui ou non, la sémantique du placement de trait implique une potentialisation d'action? Alors, Gibson, la plupart des théoriciens ont un rapport ambivalent avec Gibson parce que Gibson a vraiment une œuvre très importante en matière de perception. Et ces définitions de l'affordance sont toujours extrêmement pertinentes pour nous. Il écrit en 1979, les affordances de l'environnement sont ce qu'il offre à l'animal, ce qu'il lui fournit ou lui procure, que ce soit en bien ou en mal. Et Chemerot, 2003, qui d'ailleurs, à cette occasion, cite, sans vraiment creuser le sujet, le travail de Strawson, dit « Les affordances sont des relations entre les capacités des animaux et les caractéristiques de l'environnement. » Alors, tout le monde insiste, Gibson, Chemerot, tous les spécialistes des affordances, que ce sont des relations qui sont à la fois réelles et perceptibles, mais on ne peut pas dire que ce sont des propriétés de l'environnement ou des propriétés de l'animal. Donc là, je pense que c'est un point qui est familier aux linguistes, parce qu'on ne peut pas évidemment conclure d'une expression de relation qu'on pose ou qu'on est même capable de distinguer qui est l'objet, qui est le sujet. Ce sont des relations, disons, qui vont servir au contraire ultérieurement à les dissocier. Alors, un problème, le caillou dans la chaussure, c'est que Gibson s'estime anti-représentationnaliste et donc minimise beaucoup le rôle du traitement de l'information dans la perception. Il tient absolument à soutenir que les conceptions représentationnelles sont incompatibles avec la perception directe et érigent des barrières entre l'animal et l'environnement. Il faut dire que depuis son époque à maintenant, on a changé de concept de représentation. La notion de traitement de l'information est beaucoup plus fluide et riche que ne l'étaient ses conceptions sémantiques un petit peu traditionnelles qu'il avait en face de lui. Et donc, je vais essayer de très vite vous indiquer quelles sont les révisions contemporaines du concept d'affordance gibsonienne que même des grands amis de Gibson sont obligés de prendre en considération. En particulier sur le rôle de l'information, puisque pour Gibson, il y avait une espèce d'accord direct entre la posture, par exemple, et puis l'être au monde. En fait, maintenant, on se rend compte que les affordances, elles ont bien des voies informationnelles. Et ça, c'est une approche, c'est l'approche des grands spécialistes des neurosciences de l'action qui nous l'ont montré en distinguant une voie dorsale et une voie ventrale, y compris à l'intérieur des affordances. La voie dorsale concerne les affordances motrices de bas niveau. Par exemple, quand vous prenez un verre, comment savez-vous quel est le bras que vous devriez utiliser et quel est le meilleur geste, le plus économique possible de là où vous êtes? Eh bien, c'est une affordance motrice qui vous le dit, c'est-à-dire qu'il y a un calcul informationnel qui vous fait choisir la bonne main, les bons doigts, tenant compte de vos blessures éventuelles, etc. Et puis, il y a la voie ventrale qui concerne les affordances de haut niveau. Par exemple, quels sont les fruits à manger en premier? Vous voyez une corbeille de fruits. Vous allez choisir celui qui a les affordances supérieures, sans même y réfléchir, grâce à de nouveau une voie ventrale de traitement de l'information motrice. Bon, là, je simplifie à outrance pour vous faire voir que la notion d'information joue en effet un rôle dans les affordances. Alors, il y a quatre points essentiels à retenir sur lesquels Gibson a été réfuté. Bon, je viens de le dire, la vision dépend d'un traitement d'information effectué à plusieurs niveaux, soit dans la catégorisation des affordances, qui est une catégorisation elle-même préconceptuelle, hein, et de bas niveau dans les effectivités motrices. Ça, je viens de le dire. Mais la deuxième chose, c'est qu'il est faux, contrairement à ce qu'affirmait Gibson, que la vision ne cible que des affordances. Il existe des formes allocentriques de perception, où par exemple les relations entre objets sont perçues les uns relativement aux autres, indépendamment de ma position. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas envisageable par Gibson, puisqu'il pensait que vraiment la perception était une affaire directe d'interaction entre moi et mon environnement perceptif. Ensuite, le sens de direct, hein, de perception a changé. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas ignorer l'importance médiatrice, causale de l'information. Mais elle peut être directe aussi dans un autre sens, c'est-à-dire qu'elle potentialise des programmes d'action avant même que l'objet soit consciemment perçu. Alors ça, c'est quelque chose de passionnant, que nous révèlent des chercheurs sur les émotions, comme Lisa Barrett et son équipe, où elle montre qu'effectivement, vous réagissez inconsciemment, mais de façon appropriée, à la détection d'une affordance. Par exemple, vous êtes en forêt, vous marchez en forêt en pensant à autre chose, en discutant avec quelqu'un, et puis d'un seul coup, devant vous se présente un morceau de bois qui pourrait tout aussi bien être un serpent, d'après sa forme. Eh bien, vous évitez de marcher dessus, voire vous arrêtez de marcher, avant même de savoir pourquoi vous le faites. Bon, il y a beaucoup maintenant de preuves de laboratoire sur ce phénomène. Et puis alors, il y a le dernier caractère qui me paraît particulièrement intéressant à discuter, c'est l'avalanche. L'avalanche, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait Levin qui l'a introduit en science avec sa notion de Aufforderung character. Notez qu'Aufforderung, Aufforderung, ça veut justement dire affordance. Et que dans la littérature contemporaine, tout le monde attribue à Gibson l'origine du concept, alors qu'en fait, Lewin l'avait précédé en 1935, en ayant ce concept d'Aufforderung. Et c'est Tolman qui, en traduisant Lewin, a traduit Aufforderung par valence. S'il avait traduit par affordance, on aurait évidemment tout de suite eu un développement de la psychologie très différent. Mais il a choisi valence, c'est-à-dire la couleur affective de l'émotion, le fait qu'elle puisse être positive ou négative ou avec des degrés différents. Alors, contre Lewin, Gibson soutient que les affordances sont couplées à des configurations corporelles et comportementales, mais ce ne sont pas des sentiments de plaisir ou de douleur ajoutés à des perceptions neutres. Parce que si on avait une médiation affective, eh bien on aurait pu de caractère direct de la perception, ce à quoi il tenait avant tout. Donc vous voyez, ses préférences, ses biais en matière de théorie lui ont interdit de tenir compte pleinement du rôle de l'avalanche des affordances, alors que visiblement, lui-même reconnaît cette valeur affective, mais ne veut pas l'étudier comme une dimension originelle, si je peux dire, de l'affordance. Alors, la fonction de l'avalanche, c'est quoi ? C'est de détecter, justement, les opportunités de cette survie et d'apprendre à se comporter de manière adaptative, de manière flexible et rationnelle, et cela même avant d'être conscient de ce qui est devant nous. Donc, il y a une dimension prédictive de l'émotion qui devrait, évidemment, éveiller l'intérêt aussi des linguistes, dans la mesure où cette notion de placement par trait est une notion qui est vraiment immédiatement acquise avant même qu'elle puisse être verbalisée ou faire l'objet d'un jugement. Alors, également, cet aspect de valence nous explique le rôle dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la potentialisation de l'action, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aussi en sciences cognitives les effectivités. Les programmes d'action qui sont invités, comme on dit, par les affordances, sont évidemment étroitement liés aux affects qui ont été détectés. Donc là, nous avons toute une littérature contemporaine sur le sujet. Alors, je reviens au placement de traits. Puisque vous avez pu observer l'analogie entre les placements de traits et la fonction des affordance sensing, c'est-à-dire des ressentis d'affordance, est-ce qu'il s'agit de la même attitude ? Est-ce que dans les placements de traits, il ne pourrait pas y avoir un lien également soit logique, soit inférentiel entre la valence ressentie et puis le placement de traits? Quel est exactement leur rapport? De mon point de vue, le plus plausible, c'est de dire que la valence est constitutive du placement de traits. C'est-à-dire que sans valence, vous n'auriez pas cette espèce de catégorisation préconceptuelle de l'environnement avec aussi toute la notion de pertinence qui peut accompagner cette notion de placement de trait. Donc on peut penser que le placement de trait a une fonction descriptive, c'est-à-dire qu'il exprime l'incidence d'un universel, qui peut en tant que descriptif être soit vrai, soit faux, si l'on souhaite appliquer une sémantique vériconditionnelle, ce qui me paraît quand même nécessaire au moins pour comprendre l'adaptativité des placements de traits, et une fonction évaluative, c'est-à-dire que le placement de traits évalue une opportunité dans le contexte comme étant positive ou négative, et ça fait partie de ces conditions de satisfaction également. Donc ce couplage entre description et évaluation me semble particulièrement importante pour les théoriciens des attitudes, parce que jusqu'à présent on a eu tendance à opposer ces deux dimensions. Par exemple, on a les croyances et les désirs. Les croyances sont descriptives, les désirs sont évaluatifs. Mais là, l'idée, c'est qu'il y aurait déjà au niveau des placements de traits les deux dimensions présentes dans cette attitude. Ce n'est pas tout à fait nouveau, parce que comme vous connaissez peut-être les travaux de Millikan, entre autres, sur le push-me pour Liu, c'est exactement ce qu'elle cherchait à définir. Sauf que Millikan cherchait à le définir en termes propositionnels, et qu'en termes propositionnels, enfin conceptuels, ça coince. Alors, je propose donc de réviser les constituants du placement de traits sous l'angle de la valence, de l'incitation à agir, mais aussi d'une autre dimension que je n'ai pas encore évoquée, c'est l'intensité. Donc, pour déjà vous donner une idée de l'ensemble de ma conception de cette attitude, quand on dit « il y a de la neige », on a en tête un universel trait, hein, qui est neige. On a le temps maintenant, le lieu ici. On a une intensité qui n'est pas forcément dite, mais qui est pensée par celui qui dit « il y a de la neige ». Donc il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une valence qui dépend des circonstances du penseur. Soit il souhaite faire du ski, soit il faut qu'il enlève la neige pour sortir sa voiture. Et nous avons cette notion de potentialisation de l'action, qui est liée au fait qu'il y a une valence, et donc la valence vous pousse à agir d'une façon ou d'une autre. Alors, je reviens à l'intensité du trait dont je n'ai pas dit grand-chose. Pourquoi est-ce qu'il faut dire qu'il y ait une intensité? Eh bien, c'est que quantifier le trait est essentiel quand votre métaphysique est composée de « kind of stuff ». Vous ne pouvez pas, et ça, alors, c'est l'évolution de la communication qui nous le dit. Parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la communication animale de façon détaillée, y compris chez des espèces comme les oiseaux ou comme les primates. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a une contrainte d'informativité. C'est-à-dire, lorsque vous communiquez pas à n'importe quel niveau, vous essayez de transmettre l'information pertinente pour vos destinataires et pour vous-même aussi. Donc l'information pertinente d'une kind of stuff, c'est son intensité en plus de sa valence. Vous n'allez pas communiquer qu'il y a des par exemple les mésanges, qui sont très fortes en communication, peuvent communiquer qu'il y a des groupes d'individus inconnus qui arrivent sur leur territoire et indiquer en même temps le nombre d'individus, non pas en les comptant, mais en disant beaucoup ou pas beaucoup. Clairement, pour les mésanges, les envahisseurs, c'est une kind of stuff. Donc, eux, ils ont besoin de cette caractéristique d'intensité. Et il me semble que dans la cognition humaine, même sous forme de placement de traits, l'intensité, si elle doit pouvoir être représentée, parce qu'il y a une contrainte évidente de l'évolution pour que le système correspondant, sémantique, dispose de cette catégorisation absolument fondamentale pour la survie. Alors, nous savons qu'il existe des sémantiques d'intervalle ou de degré qui n'implique justement pas la représentation d'un domaine d'individu. Ça, c'est le travail de Solt en 2015. Donc, on n'est pas... quand on a une sémantique d'intervalle ou de degré, on peut comprendre, entre guillemets, peu, beaucoup, pas, etc., sans avoir justement à référer à des populations d'individus. Donc, ces adjectifs de quantité tels que beaucoup ou peu, comment sont-ils alors utilisés, puisqu'on n'a pas de caractérisation, disons, explicite? Eh bien, ils peuvent être utilisés, ça on le sait par ailleurs, par nos travaux sur la métacognition chez l'animal, ils peuvent être évalués relativement à un standard implicite, c'est-à-dire issu de l'activité neuronale elle-même. Enfin, je ne vais pas développer ça de façon développée, parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui, et puis c'est un peu technique, on ne va pas en parler, mais sachez que la notion de degré peut être pensée avec des ressources extrêmement limitées sur le plan de la catégorisation des individus. Alors, il y a une objection classique lorsqu'on inclut la valence dans la sémantique des placements de stress, c'est pourquoi, dans le cas du placement de stress, spécifié dans la structure sémantique, l'évaluation d'un universel dans un contexte. Et même, pourquoi faut-il spécifier la potentialisation d'une réaction? Donc, pour l'objecteur, la sémantique des assertions, par exemple, elle est déclarative et non pas évaluative. Et donc, on reste dans une sémantique, on devrait, si on s'inspire de la sémantique des assertions, dire que dans le cas du placement de traits aussi, on devrait se contenter de localiser un trait sans avoir à l'évaluer, en disant ça, il faut laisser ça à une autre structure. C'est pas de la sémantique, c'est autre chose. Dans ce cas, on pourrait alors avoir un indicateur d'intensité, mais pas d'évaluation égocentrique. C'est-à-dire pas dire c'est bien, c'est agréable d'avoir de la neige, ou c'est zut, il y a de la neige. On aurait juste le déclaratif. Bon, là, c'est un débat qui est je suis sûre, destiné à être réglé par des grands spécialistes de sémantique que je ne suis pas, mais je vais simplement faire remarquer que les traits sont, comme je disais tout à l'heure, peut-être des représentations push-me-pull-you, hein, c'est-à-dire Ruth Millikan, qui a fait des livres sur consacrés justement aux fonctions des représentations. Elle décrit dans cet article archi connu de 1995 la possibilité d'avoir une double fonction déclarative et directive, c'est-à-dire représentant un état de choses du monde et prescrivant comment y agir. Par exemple, il fait très froid ici, je le dis ça pour monter le chauffage, pour que quelqu'un monte le chauffage. Donc ça pourrait être plus généralement le cas de tous les énoncés par trait. Il y aurait une partie déclarative, une fonction déclarative, comme énoncer l'état du monde avec une intensité donnée. Une partie évaluative, cet état du monde est désagréable, avec une valence elle-même qui peut varier indépendamment de l'intensité. Vous pouvez avoir très peur de quelque chose qui est relativement... peu intense, etc. Et enfin, une partie directive qui fait en sorte d'agir sur le monde, hein, rétablir l'équilibre thermique. Donc, ça me semble avoir du sens, mais on peut également dire, comme l'ont fait d'autres auteurs, que l'attention rationnelle à l'environnement est uniquement un aspect pragmatique, où la détection, où ce qui compte, la fonction principale, c'est de détecter et d'évaluer les affordances avant éventuellement de pouvoir les transmettre à d'autres. Et dans ce cas-là, peut-être que se développerait plutôt la fonction descriptive. Alors, un argument en faveur de la réponse disons, évaluative seulement, hein, c'est que dans tous les domaines où le contrôle dépend des apprentissages, il y a un stade procédural non conceptuel qui précède évolutionnairement un stade descriptif et conceptuel. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de description avant que l'on passe à cette sémantique caractérisante que permet l'opposition entre concept et objet, et qu'avant, on n'aurait que de l'évaluation. Donc ça, c'est vraiment une position aussi qui me paraît tout à fait soutenable, au point même où on peut aussi, il y aurait peut-être une troisième position, qui serait de dire que la distinction descriptif-évaluatif est une illusion. Parce que notre langage courant contient aussi des évaluatifs, toutes sortes d'éléments et de constituants qui sont de type émotionnel. Et nous ne pouvons très difficilement décrire quelque chose sans déjà caractériser les choses de façon émotionnelle. Mais enfin, ça, c'est un très très gros débat que je ne suis certainement pas à même de soutenir longtemps. Mais je m'en remets à vous pour approfondir ce sujet. Alors maintenant, qu'est-ce que la métacognition a à voir avec tout ça? Alors, pour vous faire voir tout de suite le rapport entre les affordances de l'environnement et les affordances cognitives, voyez ces illustrations. Vous avez d'un côté les opportunités, les risques de champignons qui peuvent être très bons ou empoisonnés. Et puis, dans la pensée, vous avez aussi des opportunités de bonnes et de mauvaises hypothèses d'informateurs qui vous transmettent des connaissances et d'informateurs qui vous manipulent. Donc, tout ça nécessite de détecter les types d'affordances de ma pensée, puisque quand je communique avec autrui, je dois me fier uniquement à ma pensée pour faire le tri entre ce qui est important et intéressant, et ce qui est incohérent, douteux, inadéquat ou sous-informé. Donc ça, il y a une analogie fonctionnelle très forte qui me paraît justifiée qu'on parle dans les deux cas d'affordance. Donc les affordances perceptives permettent aux agents de repérer des opportunités pragmatiques d'action. Donc se nourrir, éviter les projectiles, se réchauffer, tout ça, bien sûr, est très facile à comprendre. Mais ce qui me paraît aujourd'hui évident, c'est que dans le domaine mental aussi, les représentations d'affordances cognitives nous permettent de repérer les opportunités d'action informationnelles dans un contexte, et aussi les risques dans ce contexte d'être mésinformé ou de manquer une information. Alors là, je sous-entends que le concept d'action cognitive, dont il a déjà été question tout à l'heure dans le cours de François Recanati, dans cette notion de repérage d'opportunités, il y a l'idée d'un contrôle actif de la part de l'agent. Le rapport à l'information, ce n'est pas un rapport passif. De même d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, que le rapport à la perception n'est pas un rapport passif. Vous orientez votre perception en fonction de vos attentes. De même, pour l'auto-évaluation mentale, vous vous repérez dans vos actions grâce à ce que vous avez appris dans le passé en termes d'opportunités et de risques et de probabilités attachées à chacune d'entre elles. Alors, j'espère que ce n'est pas trop d'informations que je vous déverse, parce que c'est vrai que ce n'est peut-être pas des domaines dont vous êtes familier, mais l'idée, donc, c'est que si on adopte ce point de vue fonctionnel, il y a tout de même une analogie très forte entre les affordances perceptives et les affordances cognitives. Les ressentis d'affordance perceptive réduisent l'incertitude factuelle du monde. Vous savez que cette notion de réduction d'incertitude est devenue un concept clé aujourd'hui en sciences cognitives. C'est-à-dire percevoir, c'est réduire de l'incertitude, de même que toute autre forme d'action. Ça a été généralisé par la notion de codage prédictif par Carl Friston et son groupe. Et de même, les ressentis d'affordance cognitive réduisent l'incertitude subjective sur le succès de l'action cognitive. Donc il y a vraiment une très forte analogie entre les deux formes d'affordance. Et ce que cette prédiction, elle est faite par des sentiments, donc dans le cas de la métacognition. Asher Coriat, dont on peut dire qu'il est le fondateur vraiment de la science de la métacognition, l'a défini comme une expérience métacognitive, cette forme d'information qui permet originellement de s'y retrouver dans ses états mentaux, dans comment diriger sa cognition. Donc il y a une expérience métacognitive qui est à la base de tout le reste, et puis ensuite les concepts métacognitifs ou les théories que l'on acquiert sur l'esprit, le sien et celui des autres, vont s'ajouter à ce niveau expérientiel. Alors, revenons à notre sémantique. L'hypothèse sémantique dans le cas des affordances cognitives, c'est qu'elles ont une structure sémantique de placement de traits. Donc, on a un universel trait qui serait le sentiment noétique correspondant à une situation donnée. J'y reviendrai tout à l'heure. Le temps qui est maintenant. Le lieu qui est ici, cette tâche. L'intensité, qui est un degré variable entre 0 et 1, et une valence qui est positive ou négative. Et enfin, il y a une action à la clé également, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai le sentiment que j'ai une affordance de remémoration, on pose la question, quelle est la capitale de l'Australie ? Alors là, je vois tous les cerveaux en train de s'activer, quelle est la capitale de l'Australie ? Eh bien, comment savez-vous déjà que vous allez pouvoir répondre ? Parce que peut-être vous n'avez aucune idée de la capitale d'Australie, ou bien vous avez une petite hésitation entre deux solutions. Bon, dans ces deux cas, c'est la métacognition qui vous oriente. Qui vous oriente déjà dans le choix d'essayer de résoudre ce problème ou pas. Première décision. Soit sur le fait de, une fois que vous avez récupéré une solution, de la soumettre. Donc vous acceptez cette solution. Là aussi, il y a un tri à faire, et ce tri à faire, il est également assuré par la métacognition. Donc ça, c'est l'exemple du temps de savoir que je viens de vous décrire, et la variable d'intensité devient cruciale. Parce que le degré d'incertitude que vous éprouvez pour répondre à chacune des questions que je vous ai indiquées, eh bien, c'est elle qui va déterminer si vous avancez dans la tâche ou vous la rejetez. Si vous sentez que décidément vous avez trop d'incertitudes, vous allez vous dire « c'est pas pour moi cette question », en passant à autre chose. Donc il y a bien une potentiation d'action. Alors on sait aujourd'hui exactement quelle est la base qui permet de calculer cette incertitude subjective. Nous connaissons, grâce au cas de l'animal, les populations neuronales qui anticipent le résultat d'une tâche cognitive sur la base des observations antérieures. Et alors, l'hypothèse supplémentaire, là, c'est que les dynamiques d'activation et la vitesse de propagation sont ressenties, non pas comme des vitesses de propagation, etc., mais comme des sentiments de succès possibles. Donc c'est vraiment c'est de la métaphysique que je vous propose. Hein. C'est que les sentiments noétiques, ils ont un rôle causal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont la traduction même des propriétés neuronales sous-jacentes, ce qu'on appelle la dérive de diffusion. Alors c'est évidemment des hypothèses extrêmement lourdes pour le placement de traits, hein, qu'aucun sémanticien n'a à faire, mais je vous dis simplement comment ça marche pour que vous commenciez à prendre ça au sérieux. Parce que tant qu'on parle dans l'abstrait, étant donné qu'il s'agit d'une hypothèse qui est quand même inhabituelle, il faut lui donner un petit peu de poids métaphysique pour montrer qu'elle mérite d'être analysée. Alors, oui, ça je vous ai déjà dit tout à l'heure, même si elle a précédé la sémantique conceptuelle, détachée, sujet-objet, etc., la sémantique en trait placé ne s'applique pas uniquement à des états antérieurs de la cognition humaine, mais elle concerne un rôle expressif dans le langage quotidien à propos de l'environnement, mais aussi, évidemment, dans notre propre jugement. Et alors, ce qui compte, c'est que même dans les formes les plus élevées de la cognition, par exemple, les joueurs d'échecs de haut niveau, les grands mathématiciens, les chercheurs, les philosophes, tout le monde a besoin de la métacognition procédurale pour faire le tri entre ses propres hypothèses. En d'autres termes, elle a besoin du placement de traits, y compris pour décider quelle est l'hypothèse la plus prometteuse. Bien sûr, il y a une base de raisonnement qui est ce sur quoi j'ai travaillé, mais cette base de raisonnement est évaluée grâce à ces moyens qui sont émotionnels, rapides et fondés sur des dynamiques de probabilité antérieures. Donc c'est pas n'importe quoi. Sans ce niveau émotionnel, on serait incapable de s'y reconnaître dans les hypothèses nombreuses que l'on est en train de formuler. Il faut un système de décision affectif, rapide et fiable pour s'y retrouver. Alors maintenant, quel est le rôle des déictiques ? Le rôle des déictiques, c'est de placer les traits au bon endroit, évidemment. Alors, dans le cas de la métacognition, comment ça se passe ? Pour le comprendre, je vous ai proposé un petit tableau, là. Vous avez à gauche l'indexage visuel, les démonstratifs tels que Pilichin nous les a rendus, disons, intelligibles. Donc, dans l'indexage visuel, les index spatiaux réfèrent directement et de manière non conceptuelle. Ça, c'est vraiment un apport essentiel de cette conception de Pilichin, à des éléments du champ visuel et non pas à des objets. De même, lorsque vous êtes dans l'indexage mental de traits, les sentiments noétiques expriment de manière non conceptuelle et située les dispositions cognitives d'un individu. Donc, même si un individu n'a pas le concept de se rappeler, eh bien, il est néanmoins capable de le faire de façon indexicale en disant « je ne me rappelle pas ça », en disant pas « je ne me rappelle pas ça », mais en ayant un index mental qui lui permet de pointer vers la tâche en cours. Et non seulement de pointer vers la tâche en cours, mais de pointer vers le moment de la tâche en cours, puisqu'en fait, il y a trois moments, je ne sais plus dans quel diapo j'en parle, je crois que j'en parle par la suite. Avant la tâche, choisir si je peux la faire. Pendant la tâche, est-ce que j'ai commis des erreurs? Et après la tâche, est-ce que j'accepte mon résultat? Donc là, c'est très intéressant de voir que l'indexage mental correspond à l'indexage visuel sur ce plan-là. C'est-à-dire on peut caractériser, on peut pointer vers un objet d'intérêt qui soit dans le champ de perceptif ou dans le champ mental sans disposer de concept pour le caractériser. Ensuite, le deuxième caractère de l'indexage d'après Pilichin, c'est que l'indexage visuel permet le contrôle sensorimoteur de l'espace péripersonnel, évidemment. La fonction de l'indexage, c'est de contrôler, c'est de pouvoir saisir les objets, de pouvoir repérer les trajectoires des objets malgré leur déplacement. Enfin, des objets, plus exactement, j'ai parlé d'objets, d'éléments, pas d'objets. Eh bien, de même, l'indexage mental a une fonction prédictive dans le contrôle des actions cognitives qui correspond au contrôle sensorimoteur, mais au niveau du choix des actions, l'arrêt des actions et les changements de décision concernant les actions. Troisième point, l'indexage sur des pré-objets assure l'ancrage pour l'acquisition de concepts visuels. Eh bien, c'est également le cas dans la métacognition humaine. L'indexage sur des dispositions assure l'ancrage ultérieur de concepts épistémiques. Et on voit ça chez l'enfant. L'enfant de 2 ans, 18 mois, a des capacités métacognitives sans avoir de langage. Et quand il aura un langage, il pourra se référer à son incertitude en utilisant des mots et surtout son niveau de confiance. Enfin, les index spatiaux permettent de repérer des universaux traits quand une sémantique conceptuelle est absente. Et bien, de même, les sentiments noétiques permettent aux agents d'évaluer leur disposition, même sans sémantique conceptuelle. Donc, il y a des différences quand même. C'est que dans le cas des index visuels, la perception des trajectoires d'objets dans l'espace guide les actions physiques, tandis que, évidemment, dans l'indexage mental de traits, le contrôle des actions cognitives suppose de prédire le progrès de l'action sur la base d'un feedback exclusivement endogène. Donc, on ne voit pas les objets se déplacer dans l'espace comme dans le cas des indices visuels. Il faut garder la trace de ces traits sur la base de la structure prédictive à laquelle l'action est soumise. Donc c'est cette notion de modèle direct de l'action, hein, qui est une des hypothèses les plus courantes pour expliquer cela, c'est-à-dire quand vous vous engagez dans l'action, vous vous représentez déjà toutes les étapes que vous allez avoir à suivre. Et sans cette notion de contrôle de l'action avec son modèle direct, qu'on appelle modèle forward en anglais, forward model, sans cela, vous ne pourriez pas savoir où vous vous arrêtez d'agir, ni où vous vous êtes trompé, et comment revenir en arrière, etc. Donc il y a bien une organisation de l'action qui est supposée existante pour qu'un indexage soit possible dans le domaine mental. Je pense que c'est pareil aussi pour le domaine visuel d'ailleurs, mais ça nous entraînerait trop loin. Deuxième point, l'indexage visuel dépend des trajectoires perçues dans le monde et l'indexage des sentiments du feedback de l'action en cours. Et enfin, le suivi spatial des index est requis, alors que les index mentaux interviennent aussi à trois étapes de l'action. Avant, pendant, après. Donc ça, c'est mon propre travail, je suis fière de le dire. C'est qu'il y a trois moments clés où le monitorage détermine un type spécifique de contrôle de l'action. Avant, c'est choisir un objectif cognitif parmi plusieurs options. Pendant, c'est corriger la trajectoire de l'effort. Et après, c'est évaluer le résultat pour l'accepter. Il y a beaucoup de chercheurs, par exemple Steve Fleming, qui se consacrent uniquement à l'après, dans le cas de la perception, parce que c'est plus facile de s'intéresser à cette étape, pour voir comment les gens acceptent leur décision perceptive. Ça, il sait très bien faire. Mais par contre, les deux autres étapes ont été assez peu étudiées, sauf l'avant a été étudié aussi par des problématiques expérimentales chez l'animal. Donc, avant, je vais plutôt commenter cette slide. L'avant, le milieu et l'après, vous voyez, les sentiments correspondants à l'avant, c'est par exemple le sentiment de curiosité, de familiarité, le sentiment de savoir, le sentiment de confiance sur mes capacités à venir, et le tip of the tongue. Hein, c'est l'impression, les sentiments qui me prédisent le succès. Pendant, vous avez les sentiments d'erreur, les sentiments d'incompréhension, le sentiment d'incohérence, le sentiment d'intérêt, le sentiment de confusion. Après, vous avez le sentiment d'avoir raison ou d'avoir tort, le sentiment d'avoir appris, ce qu'on appelle un judgment of learning, le sentiment d'eureka, où vous avez l'impression d'avoir trouvé au-delà même de vos attentes, et le sentiment de confiance rétrospective sur l'ensemble de ce que vous avez fait. Donc vous voyez, il y a vraiment là des affordances différentes, et ce sont des affordances temporelles dans leur relation avec la tâche. Donc ça, il me semble que ça introduit des perspectives sémantiques intéressantes de voir la construction temporelle de ce fameux maintenant de Strawson. Donc ça, je pense que vous avez vu que tout cela ne suppose pas de concepts tels que qu'est-ce que l'incertitude, qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que la perception, qu'est-ce que la fiabilité. Le choix et le suivi supposent plutôt une sensibilité des traits prédictifs à chaque étape, la détection de la disponibilité ou du manque d'information, et l'adaptation des commandes à la progression de la tâche. Alors, j'avais prévu de vous parler d'objections méta-représentationnelles, mais si je le fais, je retire du temps de discussion. François, qu'est-ce que tu penses ? Là, ça fait 64 minutes que je parle.
On a jusqu'à 13 heures.
Tu préfères que je présente ma dernière, mais ça va aller vite. Hein. Bon, d'accord. Alors, l'objection méta-représentationnelle, c'est que on part d'une analyse différente de la métacognition, en s'inspirant d'ailleurs, bizarrement, de l'étymologie. Je dis bizarrement parce que quand vous êtes scientifique, vous ne regardez pas l'étymologie. Vous avez un domaine et puis vous regardez comment ça se passe dans ce domaine. Mais métacognition, ça évoque l'idée d'une représentation de la cognition. Or, une représentation de la métacognition est censée dépendre de méta-représentation, c'est-à-dire de représentation de représentation. La métacognition dont je vous ai parlé, celle qui est procédurale, celle qui est fondée sur les affordances, ne dépend pas de méta-représentation dans la mesure où, par exemple, le sentiment de savoir ne demande pas de sonder ses propres attitudes mentales. On fait seulement des prédictions sur la base de dynamiques cérébrales qui nous échappent, simplement qui nous sont devenues conscientes par les sentiments, par les ressentis d'affordance. Donc il y a vraiment un conflit entre l'hypothèse métareprésentationnelle et l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une autre étape antérieure à ce qu'on appelle la métacognition explicite, qui est cette métacognition représentationnelle, dans la mesure où ça ne correspond pas à l'étymologie de métacognition, puisque ce n'est pas une cognition de la cognition. C'est un contrôle de la cognition. Donc il y a cette espèce de, dans la littérature, un conflit déjà depuis une trentaine d'années qui est en voie de résolution, je crois, au profit de mon camp. C'est que, après avoir refusé pendant des années de considérer qu'il y avait un aspect du contrôle métacognitif qui existait avant la métacognition explicite, bon, ces auteurs métareprésentationnistes disent non, mais avant ça compte pas, c'est pas de la métacognition. Mais enfin bon, ça nous apporte quoi de dire ça? Alors malheureusement, ça inclut quelqu'un que tu aimes bien, François. Alors c'est pas Peter que tu aimes bien peut-être aussi, mais c'est quelqu'un que tu aimes encore plus que Peter. Peter Caruthers, depuis 2009, a été un ardent défenseur de la conception métareprésentationnelle, disant il n'y a pas de métacognition procédurale. Ça ne veut rien dire, puisque c'est pas méta, donc ça ne compte pas. Et donc, il défend une conception hautement interprétative en disant que notre accès à nos attitudes est toujours interprétatif, plutôt qu'introspectable, même si les données permettant de s'auto-interpréter sont plus riches que ce qui est normalement disponible pour interpréter autrui. Donc, pour lui, le système qui fait l'évaluation et ce sur lequel porte l'évaluation n'ont pas besoin d'appartenir au même organisme, mais de toute façon, l'évaluation dépend de méta-représentation, c'est-à-dire une théorie de l'esprit. C'est parce que j'ai la capacité d'analyser mes propres états mentaux à travers ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer dans le détail ce qu'est une théorie de l'esprit, mais croyez-moi, il y a cette conception que quand on a les bons concepts d'états mentaux, on apprend à détecter ce que les autres pensent, même si ce n'est pas nous-mêmes les états mentaux que nous avons nous-mêmes. Mais dans cette conception de Caruthers, l'évaluation suppose de représenter les attitudes mentales en tant que mentales, c'est-à-dire de les méta-représenter pleinement. Et voilà l'autre personne qui le défend aussi, Joseph Perner. Il écrit « La métacognition est communément définie, alors lui aussi il fait de l'étymologie, comme la capacité de savoir que l'on sait ou de penser que l'on pense. Plus généralement, on peut la considérer comme la capacité d'avoir un état mental à propos d'un état mental. Ainsi, le fait de sentir que l'on ne sait pas ou d'être conscient que l'on sait peut être considéré comme un acte de métacognition. J'estime que cet élément récursif, donc métareprésentationnel, d'un état mental à propos d'un état mental définit la métacognition. Donc c'est vraiment dommage qu'un grand développementaliste se fie à l'étymologie pour définir ce qu'est la métacognition. Moi, ça me fait de la peine, ça fait des années qu'on ferraille sur ce sujet, bien sûr. Donc, exemple d'application de la thèse de Perner, évaluer si on se rappelle correctement ou non un nom suppose de reconnaître que ce qui est retrouvé est un souvenir. Dans cette hypothèse, les non-humains et les jeunes enfants n'ont pas de métamémoire puisqu'ils n'ont pas la capacité de se représenter qu'ils ont une mémoire. Et donc, ils ne commenceront à avoir une mémoire qu'après avoir acquis des compétences mentalisatrices. Or, évidemment, ça, c'est faux. Hein, on sait maintenant, et je vais en donner quelques exemples dans un instant, que les non-humains ont de la métamémoire. Naturellement, pendant longtemps, les partisans métarepresentationnistes ont dit « mais ce n'est pas des bonnes expériences, c'est faux, il y a des biais », mais malheureusement pour eux, tous ces biais ont été démontrés inexistants. Alors voici l'évidence comportementale chez le non-humain. Bon, le grand auteur, c'est Smith et son groupe, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Ils ont montré que les singes et les dauphins sont capables de déterminer la probabilité avec laquelle ils peuvent réussir une tâche de discrimination de densité visuelle ou auditive. C'est-à-dire, la tâche, c'est ça. Vous voyez, vous avez en bas à droite un stimulus de nuage de points, extrêmement peu appétissant, je reconnais. Mais les singes apprennent à distinguer s'il s'agit d'un nuage dense ou d'un nuage pas dense. Là, c'est un nuage dense. Ils ont la possibilité de répondre directement ou bien de dire « je ne sais pas ». Et en fait, ils font cette tâche aussi bien que des humains. Voici les réponses. Ils sont même peut-être légèrement supérieurs aux humains. Et donc, ils témoignent d'une sensibilité à leur mémoire, leur perception, pardon, mais ils font les mêmes tâches en mémoire également. Et là aussi, ils sont capables de le faire avant, pendant ou après la tâche, c'est-à-dire parier rétrospectivement sur la correction de leur propre acte cognitif. Alors, outre ces éléments de comportement, on a des preuves neuronales que je vais passer parce que vous pourrez vous référer aux références, je vous laisserai les diapos sur mon site. Nous savons que maintenant également, autre clou dans le, on disait clou dans le coffin, dans le cercueil, oui, c'est que les enfants préverbaux sont capables d'évaluer leur capacité cognitive. Donc à 20 mois, ça c'est le travail de Louise Goupil et Sid Quider, qui sont d'ailleurs des membres du DEC de l'ENS, étaient. Eh bien, ces enfants préverbaux peuvent demander non-verbalement de l'aide aux adultes d'une manière stratégique, c'est-à-dire correspondant à leur niveau de souvenir, afin de décliner les choix qu'ils évaluent comme trop difficiles. Donc, s'ils ne savent plus où se trouve le joujou, la boîte A ou la boîte B, au bout d'un certain temps, ils vont demander de l'aide, et juste seulement dans les cas où ils ne se rappellent plus. Donc, il y a des circonstances expérimentales qui permettent de définir s'ils se rappellent ou non, bien sûr. Et on a également des preuves cérébrales qu'ils ont des signaux de négativité et d'erreur qui sont déclenchés lorsqu'ils font un choix incorrect. Donc nous avons bien des preuves que les nourrissons eux-mêmes peuvent évaluer correctement le degré de confiance de leurs décisions, surveiller leurs erreurs et utiliser ces évaluations pour réguler leur comportement sans avoir encore une théorie de l'esprit. Ça a été montré aussi pour les enfants de 3 ans. Et ça a été montré aussi, donc par des travaux que j'ai fait moi-même avec des collaborateurs allemands, sur le fait qu'il y a des dissociations chez l'enfant entre métacognition procédurale et explicite, c'est-à-dire être capable de faire une métacognition procédurale et se tromper dans la caractérisation en théorie de l'esprit. Nussisson et Coriat et Ackermann l'ont fait également. Donc conclusion pacifique. Eh bien, la compétence procédurale et la compétence métarepresentationnelle sont maîtrisées chez l'humain à des âges différents, mais les deux sont maîtrisées. Ce qui ne fait pas l'unanimité, c'est cette interprétation. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a deux... Là, je vais trop vite. Il faut interpréter soigneusement cette dualité, mais ça, c'est pour les gens qui sont déjà familiers avec la dual process theory. Je crois que la notion de dual process theory posait que le système affectif était un système irrationnel, alors que le système prédicatif était un système rationnel. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que cette interprétation de la dualité est fausse. La notion d'affect est centrale dans la rationalité elle-même. Elle a un rôle à jouer, même si évidemment il y a des cas d'irrationalité qui dépendent de l'affect. Sans l'affect, on ne pourrait pas raisonner rationnellement. Voilà, et bien je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.